Bonjour, bonsoir et bienvenue au podcast Découverte avec Frédéric, où je partage mes découvertes avec mon chat Grisou, mon amie Véronique et toi. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'enregistre la capsule avec un nouveau micro. Donc, sens-toi à l'aise de me dire ce que tu penses de ce nouveau son. J'espère que la qualité te plaira. On essaye toujours d'aller vers ce qui est de mieux et d'améliorer la qualité du balado. J'ai comme développé une espèce de déformation professionnelle, si je peux dire, depuis que j'ai commencé le balado, puis que c'est devenu quelque chose d'un peu plus régulier. Maintenant, à chaque fois que je lis quelque chose, à chaque fois que je suis sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit, j'ai toujours l'œil ouvert pour des trucs intéressants, des nouvelles découvertes à partager. Et j'avais acheté un livre de façon tout à fait... J'étais pour dire involontaire, c'est pas nécessairement le bon mot, mais en fait, c'est que j'ai pris ce livre-là pour mon plaisir personnel, sans avoir le balado en tête. Et finalement, j'ai été pas très surprise, parce que je m'attendais à ce que ce soit un bon livre, j'avais entendu des bonnes critiques, mais finalement, je trouve que c'est un livre parfait pour le balado. Donc, j'ai sorti des extraits du livre « Les mémoires d'un chat » par Hiro Arikawa. Donc, c'est une autrice japonaise et c'est vraiment super intéressant la façon qu'elle a monté son livre. Le narrateur, en fait, c'est un chat. Et on suit un peu sa vie avec son maître pour à peu près moins que 5 ans, mais leur vie commune dure à peu près 5 ans. Et c'est super intéressant, c'est vraiment bien fait et ça nous en fait beaucoup découvrir sur la vie au Japon à dans différentes régions, à différents types de vie. Donc c'est super intéressant, puis j'ai vraiment aimé cette lecture-là. Ça se fait tout seul, ce livre-là, c'est un bonbon pour l'âme. Donc je me suis dit que j'allais te le partager aujourd'hui. Alors comme d'habitude, la capsule va commencer avec une petite présentation de l'autrice, de qu'est-ce qu'elle fait dans la vie. Ensuite, je vais te parler un peu plus du livre. On va lire le résumé ensemble pour qu'elle t'aille une petite idée un peu de la ligne historique. Et après ça, on va partir sur les extraits. Donc, j'espère que t'es ready parce que on part! Alors, j'ai fait des recherches sur Hiro Arikawa et j'ai pris des notes parce que, en fait, c'était la première fois que j'entendais parler de cette autrice-là. En fait, je savais même pas que c'était une femme quand j'ai lu le livre. Je m'en suis rendu compte justement en faisant mes recherches. Et c'est ça, elle a fait plusieurs autres livres qui se sont rendus jusqu'en Amérique du Nord. J'en ai trouvé sur les libraires, j'en ai trouvé à ma bibliothèque municipale. Mais je pense que je peux dire que Les mémoires d'un chat est son plus populaire. C'est aussi celui qui est sorti le plus récemment. Donc, si je regarde le livre, ça l'a été écrit en 2015, puis ça l'a été publié par Actes Sud en 2017. Donc, c'est quand même assez intéressant les livres qu'elle fait. Donc, c'est une autrice originaire du sud du Japon. Elle est née le 9 juin 1972, donc elle a 51 ans aujourd'hui. Et c'est une écrivaine de light novel. Le light novel, c'est un type de roman japonais que j'avais jamais entendu parler encore, qui est souvent destiné à des jeunes adultes et souvent ils ont une dimension visuelle, donc des dessins. Je sais pas si on peut comparer ça à des mangas, je suis pas assez connaissante sur le sujet, mais c'est ça, souvent là c'est une histoire avec une certaine dimension visuelle qui est ajoutée. Là-dedans, elle a écrit quelques séries incluant The Library War et la trilogie SDF. Elle a aussi écrit d'autres livres dont Mémoire d'un chat qui est pas nécessairement dans le light novel. parce qu'il n'y a pas une dimension visuelle à ça. Et bien sûr, comme je l'ai dit, là, ça a été publié par Actes Sud en 2017. Elle a aussi un livre qui s'appelle « Au prochain arrêt » qui a été adapté au cinéma en 2011. Et il y a un autre de ses livres qui a été adapté en mini-série en 2010 aussi. Donc, c'est quand même une autrice foisonnante. Elle a fait, bon, justement, là, une série, une trilogie, quelques autres livres à part ça. Puis, bien sûr, là, des adaptations au cinéma, à la télévision. Donc, c'est vraiment intéressant de découvrir ça, vu que j'en avais jamais entendu parler. Puis, je me suis dit que j'allais t'apporter ça. Une trend qui est commune un peu dans ses livres et dans ses écrits, c'est qu'elle va toujours avoir une certaine dimension de partage de la culture du Japon. Et ses livres, puis ses, ben, tous ses ouvrages, en fait, le permettent d'en apprendre plus sur à quoi ressemble la vie là-bas, dans différentes régions, dans différentes strates de la société, d'une façon vraiment multidimensionnelle et facile à comprendre quand on connaît pas nécessairement la culture japonaise. Mais ce qui est le fun, c'est que on a vraiment un sentiment que c'est très authentique comme comme portrait, ce qu'elle dresse de la culture là-bas. Et je trouvais ça vraiment intéressant à lire dans son livre. Donc c'est un petit peu ça, l'autrice, et on voit justement là au travers du livre, tu vas probablement t'en rendre compte. Puis si tu le lis, c'est certain que ça va te sauter aux yeux. On apprend vraiment beaucoup sur la vie au Japon. Puis ça, c'est une des choses que j'ai vraiment appréciées. Les mémoires d'un chat vont relater l'histoire de Nana et Satoru. Satoru étant l'humain de Nana, qui est un chat. En fait, Nana est un mâle, même si c'est un nom plutôt féminin, mais en japonais, ça signifie le chiffre 7. Et Nana a une particularité spéciale, c'est d'avoir la queue en forme de 7. Et on va découvrir un peu avec Nana et Satoru différentes étapes de la vie de Satoru. Donc, je vais te lire le résumé. Je pense que ça va être beaucoup plus clair pour toi que juste mes petites phrases comme ça. Et après ça, on va être prêt à se lancer dans les extraits. Les mémoires d'un chat. Un chat de gouttière au parler franc et rompu au langage des humains a pris ses quartiers dans le parking d'un immeuble de Tokyo. Lui qui, pour rien au monde, ne troquerait sa liberté, se fait un jour percuter par une voiture et se voit contraint d'accepter la perspective d'une cohabitation durable avec Satoru, un locataire, qui le soigne et lui attribue un nom, Nana. 5 ans plus tard, des circonstances imprévues obligent Satoru à se séparer de Nana. Désireux de lui trouver un bon maître, il se tourne vers d'anciens camarades d'études disséminés aux quatre coins du Japon. Commence alors une série de voyages et de retrouvailles qui sont pour Nana autant d'occasions de découvrir le passé de Satoru et de nous révéler mes aspects de la société japonaise. Prenant et surprenant, profond et plein d'humour, Les mémoires d'un chat est un beau roman sur l'adoption, l'amitié et la force des liens qui unissent l'homme et l'animal. Alors, au tout début du livre, on voit Nana qui rencontre Satoru, puis, bien sûr, l'accident de voiture et tout. Et le premier extrait que je vais te lire, c'est un petit aperçu de comment le début de leur cohabitation s'est passé. On dirait pas comme ça, mais je suis assez intelligent et sage comme chat. J'ai tout de suite maîtrisé la façon d'utiliser la litière. J'ai jamais fait de cochonnerie. Les griffes non plus, je me les fais pas là où il ne faut pas. Si je les fais sur le mur ou contre le pilier, il aime pas, alors je les fais contre les meubles et sur le tapis. Sur les meubles et le tapis, il a juste eu l'air un peu attristé la première fois. Et moi, qui suis un chat intelligent, qui comprend les nuances et les non-dits, je sais faire la différence entre formellement interdit et ça m'attriste un peu. Bref, contre les murs et sur le tapis, c'est pas formellement interdit, vous voyez? Alors Satoru et Nana ont appris à vivre ensemble, puis éventuellement un événement qu'on ne connaît pas arrive dans la vie de Satoru et il doit trouver un nouveau maître pour Nana. Donc il va contacter son ami d'enfance, donc son plus vieil ami, pour lui demander si ça serait possible de prendre Nana et qu'il lui rende visite avec Nana pour voir si ça fonctionne. Donc, les deux grands amis se rencontrent. Nana et Satoru ont fait le voyage en voiture pour se rendre chez cet ami. Et ils vont discuter et Nana va bien sûr venir comme sujet de conversation. Nana est un bon chasseur aussi. Plus que ça, il a même attrapé un pigeon sur le balcon. « Ah ben oui, sans blague, ils venaient se pavaner sur mon territoire d'abord. Je m'étais juré de leur apprendre les bonnes manières, un jour ou l'autre. » Je me souviens, Satoru en avait même presque les larmes aux yeux. « Pourquoi tu l'as tué alors que tu ne le manges même pas? » « Écoute, si tu commençais déjà par ne pas me gêner quand je chasse pendant la promenade. » Et puis, même lui se plaignait des fientes sur l'étendage. Depuis, les pigeons ne viennent même plus sur le balcon, je vous ferai remarquer. Et pourtant, pas un merci, rien. Satoru continue à parler à son ami. J'étais mal. Enterrer un moineau ou une souris dans les espaces verts de la résidence, ça va encore. Mais un pigeon, c'est beaucoup plus gros. Finalement, je l'ai enterré dans un jardin public, mais tu t'imagines la tête des gens qui voyaient un type d'une trentaine d'années en train d'enterrer un pigeon mort. Je peux te dire que j'avais l'impression de passer pour un type louche. Je te comprends, on entend de ces histoires dans les médias en ce moment. Je ne te le fais pas dire, chaque fois que quelqu'un se retournait, j'expliquais « Désolé, c'est mon chat ». Mais si tu avais vu les regards glaciaux que je me suis pris... Et bien sûr, c'était juste le jour où Nana avait pas envie de sortir en promenade. Ah bon? J'aurais dû rester avec toi? Ben, fallait le dire. Compte pas sur des excuses, en tout cas, tu m'as pas expliqué. C'est ta faute. Pour une raison que tu devras découvrir toi-même en lisant le livre... Nana et ce premier maître potentiel, ça n'a pas fonctionné entre eux. Donc, Satoru va reprendre Nana et va repartir avec dans sa voiture. Et en se rendant chez ce premier ami, Nana a découvert la mer. Mais a découvert la mer à partir du confort de la voiture et de la fenêtre de celle-ci. Donc, on va découvrir ensemble les réactions d'un chat face à la mer. Alors, Satoru et Nana sont sur le chemin du retour. En chemin, Satoru s'est arrêté dans une supérette pour acheter quelques petites choses et en profiter pour demander le chemin. Il paraît qu'il y a un rivage rocheux de ce côté-là. On va aller voir, d'accord? Le monospace nous a donc conduit vers le rivage rocheux. Et comme ce n'était pas très amusant de porter la cage jusqu'à la mer, Satoru m'y a amené dans ses bras. Satoru descendait à grands pas la côte menant à une petite crique quand... « Hey, Nana! Pourquoi me plantes-tu tes griffes? Ça fait mal! » « Ben, c'est que je fais pas exprès, tu vois, c'est... ce... C'est quoi ce grondement venu du fond de la terre? Un bruit comme j'en ai jamais entendu. Quelle est cette chose énorme, gigantesque? » Et soudain, devant nos yeux, la mer était là. Une énorme et gigantesque quantité d'eau qui s'approche en ondulant sans cesse. Allons, Nana, c'est la mer, les vagues, regarde, c'est amusant, non? Ah, amusant? Ça? Amusant? Une quantité énorme et gigantesque d'eau qui bouge à l'infini, tu trouves ça amusant, toi? Ma parole, sont fous ces humains? Les humains, j'en sais rien, mais un chat, tu le mets là-dedans, il meurt, je te jure. On va jusqu'au rivage, d'accord? Non, sans moi. Oh, voyons, Nana. Nana! Aïe, ça fait mal, Nana! Je me suis échappée des bras de Satoru et je me suis mis à l'abri sur l'endroit le plus haut que j'ai pu trouver, c'est-à-dire sur le sommet de son crâne. Tes griffes, Nana, ne me plante pas tes griffes dans la tête! Nana! Non, ça va pas. La tête de Satoru n'est pas un lieu sûr. J'ai bondi, atterri sur le sol et trouvé refuge au pied d'un pin qui poussait obliquement par rapport au rocher. Bon, là ça va. Je suis à peu près en sécurité. Oh là là, mais qu'est-ce que t'es allé te fourrer là-haut? Allez, redescends là! Pas question! Une seconde d'inattention et les vagues vont m'avaler tout cru, j'en suis sûre. Je ne veux pas mourir. Mais enfin, Nana, descends de la falaise, s'il te plaît. Tu ne peux tout de même pas m'obliger à monter te chercher, dis. En fin de compte, Satoru est venu me chercher en escaladant la falaise. Ce qui m'a donné l'occasion de me faire quelques réflexions. La mer, c'est bien, mais de loin. Les fruits de mer, ce n'est pas fait pour que les chats les pêchent eux-mêmes. On attend que les humains le fassent et on mange quand c'est prêt. C'est plus simple. Tu m'as lacéré la tête, Nana. Je vais souffrir pour me laver les cheveux maintenant. C'est plein Satoru. Puis, un moment plus tard, il s'est mis à rire. Si je m'étais imaginé que tu avais peur de la mer, dis donc, c'est une découverte. Non, non, j'aime la mer, je te jure. Mais de loin. Le monospace roulait sur la route du littoral. J'ai regardé cette grande surface bleue lumineuse et j'ai agité ma queue de joie. Si nous n'étions pas partis en voyage, je n'aurais jamais su ce qu'était la mer. Mon univers est limité à l'appartement de Satoru et un petit bout de territoire. Relativement grand pour un chat, mais minuscule par rapport au vaste monde. Combien de paysages existent en ce monde qu'un chat ne verra jamais? Satoru et Nana ont repris la route pour se rendre chez un couple d'amis de Satoru qu'il avait rencontré au travers de ses études. Et ce couple d'amis, bon, s'est offert aussi pour essayer voir si Nana se plairait bien chez eux. C'est des gens qui ont une auberge ou une espèce de bed and breakfast Airbnb où ce que ils reçoivent les gens qui ont des chats et des chiens. Eux-mêmes, ils ont une chatte, Madame Momo, et un chien. Donc, les prochains extraits vont se passer chez ces gens. Et c'est là aussi que Nana va découvrir la télévision cathodique. J'étais installée sur la télé du salon et de mon poste d'observation, je regardais les deux humains. À propos, j'adore la télé chez ces gens. Pour moi, une télé, c'est un machin tout fin comme une planche, mais ici, c'est plutôt une sorte de boîte qui donne envie de monter dessus, légèrement chaude, ça réchauffe le ventre. Pour passer l'hiver, ça doit être bon or. Elle est très vieille, m'a dit Madame Momo. Donc, autrefois, les télés devaient être en forme de boîte. Gros recul technologique, si vous voulez mon avis. Pourquoi avoir modifié un design aussi parfait pour en faire cette chose plate sans aucune utilité? D'après Madame Momo, on peut distinguer deux catégories de chats, selon qu'ils ont connu les téléboîtes ou pas. Question de génération. Et dans cette maison, comme c'est Chicago qui a la haute main sur tout ce qui touche au confort félin, les téléplates n'ont pas encore fait leur entrée. Décision parfaitement judicieuse, moi je dis. Le couple d'amis chez qui Satoru et Nana sont s'appelle Shikako et Suji. Donc, Shikako préfère les chats. C'est elle qui s'assure que Madame Momo est bien et que la télé cathodique reste dans le salon. Et Suji préfère les chiens et son chien à lui s'appelle Toramaru, donc aussi appelé Tora. Alors, il y a eu une petite altercation entre Nana et Toramaru dès l'arrivée. Donc, ils les ont gardés séparés pour 24 heures. Et le lendemain, ils ont une nouvelle rencontre ensemble et on va avoir droit à le dialogue qui se passe entre les animaux que les humains, nous ne saurions pas. Le lendemain, nouvelle entrevue arrangée pour moi et l'autre cabot. Après le petit déjeuner, Chicago est allé le chercher dans sa pièce. Alors, s'il te plaît, Tora, sois gentil, d'accord? On entendait Chicago lui faire la leçon. Suji tournait en rond dans le salon, l'air soucieux. Satoru ne tournait pas en rond, mais avait l'air soucieux quand même. Les seuls parfaitement calmes et sereins dans la pièce, c'était moi et Madame Momo. Moi, j'avais eu Méli-Mélo de thon avec sa garniture de miettes de poulet et j'étais parfaitement rassasiée. Allez, le Klebs, je te prends où tu veux, quand tu veux. Amène-toi. La porte en bois plein s'est ouverte. Arc-bouté sur le seuil, le chien fixe ses yeux droits sur moi. Sur moi, pas sur Satoru. Logique. Il s'en est tellement pris plein la tête par Suji que Satoru était un ami important, qu'il ne fallait pas aboyer et tout le tintouin. Évidemment, la seule cible qui lui reste sur laquelle planter ses yeux, hein? Allez, viens, je suis prêt. Il ne me saute pas dessus, mais il m'aboie dessus. C'est presque la même chose. Ouais, c'est ça, mon gros. Tu y es presque. Hurlement des humains, évidemment. Mais ce n'est pas ça qui va m'empêcher de faire le dos en oméga et de me mettre tous les poils en pétard. Hey, vous vous ne débrouillez pas mal, me fait Madame Momo qui observe la scène. Le compliment me va droit au cœur. Va-t'en! Aboie le Klebs malgré les cris d'orfraie de Chicago et Suji. Satoru n'est pas en reste et se précipite pour me maintenir au sol, pour m'empêcher de sauter et de faire sa fête à l'autre taré. Si tu restes ici, mon maître et sa femme ne pourront s'empêcher de penser à Miyawaki. Et mon maître souffre de savoir que sa femme n'a pas oublié Miyawaki. Oh, parce que tu t'imagines que j'ai la moindre intention de rester dans une maison avec un klebs complètement débile? De toute façon, à la bagarre, tu ne fais pas le poids, mon vieux. Tu joues les costauds, mais des vraies bagarres, toi, t'en as jamais fait. Jamais t'as dû te battre pour préserver ton territoire, ou sinon, demain, t'as plus rien à te mettre dans la gamelle. Parce que t'es rien qu'un monsieur de l'élite du chien de maison complètement gâté pourri. Je l'ai carrément douché à l'esbrouffe, le toutou. Faut dire que j'en connais un rayon en jolie expression apprise sur le champ de la vraie vie. Des vertes et des salées que je ne peux même pas vous répéter ici, ça froisserait les oreilles des gentes-dames et gentils damoiseaux dans l'assistance. Madame Momo, du haut de son poste d'observation sur la télé, a eu un sourire pincé. Bah, vous me voyez désolée, madame. C'est pas des choses à dire devant les personnes bien élevées, je sais bien. Fous le camp, merde! Oh, mais c'est qu'il en pleurait presque, le gentil chien-chien! Un chiot de 3 ans qui a toujours porté un collier depuis sa naissance et ça croit m'impressionner. Revient dans 100 ans, peut-être. Madame Momo a vécu 2 fois plus que moi et moi, j'ai déjà vécu 2 fois plus que toi. Alors, hein? Bon. Le souvenir de Miyawaki n'entrera pas dans cette maison parce que... Mais ferme ta gueule! Si tu dis un mot de plus, ça va faire mal. Comme tu t'en doutes, ça n'a pas fonctionné avec le couple d'amis de Satoru pour garder Nana. Alors, ils sont repartis. Dans le voyage suivant qu'ils vont faire ensemble, ils vont prendre un traversier. Et c'est la première fois que Nana en prend un. Un immense bateau blanc, grand comme un immeuble, était amarré au quai. Sa tourure restait la bouche grande ouverte sur le devant. Il m'a expliqué qu'on allait monter par là, sans même descendre de voiture. Le bateau avalait toute une quantité de voitures et ne coulait pas. Il n'y a pas à dire, les humains fabriquent des trucs incroyables. D'ailleurs, qui a eu cette idée de faire flotter des morceaux de fer aussi énormes? Celui qui a inventé ça devait être un peu fou. Le bon sens voudrait que les objets lourds coulent. Les animaux ne vont jamais contre le bon sens, il n'y a que les humains. Ce sont vraiment des animaux spéciaux. Je ne sais pas pourquoi, mais Satoru est revenu le rouge aux joues du terminal où il était allé acheter le billet pour le ferry. Oh la honte! J'avais oublié que tu ne comptes pas comme passager, Nana. Sur la liste des personnes accompagnantes, il avait écrit Miyawaki, Nana, 6 ans. Quand l'employé du guichet avait compris qu'il s'agissait d'un chat, il lui avait adressé un sourire entendu. Son côté tête en l'air apparaît de temps en temps au grand jour. Une fois la balade en ferry terminée, Satoru et Nana continuent leur route. On a quitté la route du littoral, on s'est enfoncé dans l'arrière-pays. De grandes terres sauvages s'étendaient de chaque côté de la route. Puis les étendues sauvages ont cédé la place à un paysage vallonné et façonné par la main des humains. C'est impressionnant. Je ne savais pas que la terre était si vaste et si plate. Ce n'est pas la même terre que celle des régions qu'on a visitées précédemment. La route est bordée de barrières en bois maintenant. Et dans l'espace clôturé, on voit... Mais qu'est-ce que c'est? Des gros animaux qui broutent de l'herbe, le nez collé au sol. C'est quoi ces trucs? Je me suis mis debout, les pattes de devant contre la vitre du passager. Je sais que Satoru a installé un carton et un coussin sur le siège du passager à l'avant pour que je puisse regarder le paysage. Mais quand quelque chose m'intrigue, il faut absolument que je pose mes pattes de devant sur la vitre pour mieux voir. Ah ça, c'est des chevaux. Les élevages sont nombreux par ici. Et là aussi, encore des chevaux. J'en ai déjà vu à la télé, en principe, mais c'est la première fois que j'en vois en vrai. À la télé, je les imaginais plus grands. Celui que je vois, là, en train de brouter son herbe tout près de la route, il est grand, d'accord, mais il a l'air mince quand même. Je me suis retournée vers Satoru, qui s'est mis à rire. Si tu t'intéresses aux chevaux, le prochain qu'on voit, on s'arrête, d'accord? Puis on a longé un autre pâturage, mais la clôture se trouvait à quelque distance de la route, et les chevaux si loin qu'on les voyait tout petits. Ils sont un peu loin, a fait Satoru en descendant de la voiture avant de me prendre dans ses bras sur le siège du passager. Quand il a claqué la portière, un cheval, qui semblait plus petit que la main de Satoru, a tout de même cessé de mâchonner son herbe et a levé la tête pour regarder dans notre direction. L'atmosphère se tend entre le cheval et nous. Il nous fixe droit dans les yeux, oreilles dressées. Tiens, tiens, un peu nerveux, on dirait. Ah, il nous regarde, Nana. Pour ça, oui, il nous regarde. Je dirais même qu'il nous surveille. Il se demande si on représente un danger pour lui ou pas. Il s'inquiète peut-être autant plus qu'on se trouve à une certaine distance. Si on était plus près, il est vraisemblable qu'il nous aurait déjà identifiés comme un humain et un chat, et qu'il ne se soucierait même pas de notre présence. Vu sa taille, je me dis qu'il n'a pas besoin de se sentir si nerveux, mais chaque animal possède de sa nature propre. Même de grande taille, un herbivore comme le cheval sait qu'il peut être attaqué par un carnivore de taille inférieure, d'où sa nature inquiète. En revanche, nous, les chats, on a beau être de taille très modeste, on n'en est pas moins des prédateurs. Un prédateur, c'est celui qui a l'initiative du combat. Bien sûr, nous aussi, on se méfie de ce qu'on ne connaît pas. mais s'il le faut, on se bat et on est capable de gonfler notre queue même contre un ennemi beaucoup plus grand que nous. C'est pour ça que les chiens qui croient pouvoir bizuter un chat sans risque finissent généralement la queue entre les jambes, entre les pattes en poussant des gémissements. Un chat n'hésite pas à sauter sur un chien 10 fois plus gros que lui s'il le faut. D'ailleurs, il faut bien voir que ça fait belle lurette que les chiens ont perdu l'habitude de chasser. Les chiens de chasse poursuivent le gibier pour leur maître, ils ne lui donnent pas le coup de grâce. Voilà la différence absolue entre un chien et un chat. Ne serait-ce qu'un insecte, un chat tue lui-même la proie qu'il a poursuivie et attrapée. Il y a des animaux qui tuent et ceux qui ne tuent pas. C'est une distinction importante. C'est ce qui fait que ce cheval, là-bas, peut être énorme par rapport à moi. Il ne me fait pas peur. Tout à coup, j'ai senti la fierté monter en moi. C'est ma fierté d'être un chat qui n'a pas perdu l'instinct de la chasse. Et en tant que chat qui n'a pas perdu l'instinct de la chasse, je ne me laisserai pas abattre quoi qu'il puisse arriver à Satoru. Jamais. Le cheval qui nous observait a finalement jugé qu'on ne représentait pas de danger et s'est remis à brouter son herbe. C'est loin, mais ça suffit peut-être pour une photo. Satoru a sorti son téléphone portable de sa poche. C'est avec ça qu'il prend des photos. En général, surtout des photos de son chat adoré. Je ne te le conseille pas, tu vois. Au moment où Satoru a tendu le bras avec son portable, le cheval a de nouveau levé la tête, les oreilles tendues. Pour lui, les gestes de Satoru sont suspects. Satoru a appuyé sur le déclencheur, le cheval est resté droit comme un piquet. C'est tout de même un peu loin. Satoru se contentera d'une seule photo pour cette fois. Il a rangé son portable. Le cheval nous observait toujours, encore, encore. Il ne nous a pas lâchés jusqu'à ce que nous soyons retournés à la voiture, installés à l'intérieur et portières fermées. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il a repris son repas. Désolé de t'avoir dérangé, grand. Pourtant, un seul coup de pied et ni moi ni Satoru n'aurions eu aucune chance. Mais voilà, ces animaux-là, c'est comme ça. Instinct pour instinct, moi je suis assez content d'être un chat qui n'a pas encore perdu l'instinct du combat. La bravoure du chat qui ne se soumet jamais, même contre un adversaire plus gros que moi, elle est en moi et j'en suis fière. Et rien que pour le fait d'avoir pu en tirer cette confirmation, la rencontre d'aujourd'hui avec ce cheval est importante pour moi. Alors, la route du ferry et des chevaux amenait en fait Satoru et Nana chez la tante de Satoru qui s'appelle la tante Noriko. Et tante Noriko, elle n'est pas très familière avec les chats. Et Nana s'en rend compte tout de suite, essaye de faire bonne figure, de faciliter les choses. Mais c'est pas évident parce que tante Noriko a quand même peur des chats, si on peut dire. Alors elle essaye toujours d'être le plus safe possible, puis elle essaye de connecter avec Nana en lui prenant la queue, parce que selon elle, c'est moins dangereux que de s'approcher de sa tête et donc de risquer de se faire mordre. Alors, quand elle essaye le matin de dire bonjour à Nana, elle s'enligne toujours sur la queue de celui-ci qui n'apprécie pas beaucoup. Ce jour-là, Satoru, qui avait assisté par hasard à la scène, est venu à mon secours. Non, tante Noriko, pas comme ça. N'essaie pas de l'attraper par la queue, il aime pas ça. Ou il faut le toucher alors. Commence par la tête ou derrière les oreilles. Et quand il sera habitué, tu pourras essayer sous le menton. Satoru a joint le geste à la parole, sa brosse à dents à la main. La tête. Derrière les oreilles, sous le menton. Vous savez ce qu'elle faisait en répétant consciemment les directives de Satoru? Elle prenait des notes. Ne pas toucher la queue. Non, mais faites quelque chose, quelqu'un, quoi? Mais bon, il n'y a que Satoru ici. Tu as vraiment besoin de prendre des notes? A demandé Satoru en riant. C'est pour ne pas oublier, a répondu Noriko très sérieusement. Voyons, Madame Noriko, si c'est pas le comble de la lourdeur, ça. Au lieu de prendre des notes, touche-le directement, ça sera plus facile pour mémoriser. Oui, mais la bouche est tout près. Ouais, la bouche est tout près de ma tête, et alors c'est un souci? S'il me mord? Non, mais quel culot! S'il me mord, moi qui me retiens tous les jours de ne pas t'envoyer un coup de griffe chaque fois que tu essaies de me tirer par la queue, quand même! Une bêtise pareille mériterait bien un coup de dent, oui. Ne t'en fais pas, allons. Sur l'insistance de Satoru, Noriko a tendu timidement la main. Et franchement, je ne vous le cache pas, ce qu'elle vient de dire me donne envie de lui apprendre le respect. Mais chat très raisonnable je suis, qui sait retenir ses mouvements d'humeur, et je compte sur vous pour dire du bien de moi autour de vous. Merci bien. Enfin, bon, au moins j'ai compris pourquoi elle cherche toujours à m'attraper la queue, c'est parce que c'est l'endroit le plus éloigné de la bouche. Bah, elle ne sait pas que les animaux réagissent généralement plus rapidement à une attaque par la queue ou le dos qu'à une attaque frontale ou à une main devant leur nez. C'est doux. Eh oui, plus doux que du velours. J'en suis assez fière. Tu vois, Nana aussi aime bien ça. Si vous voulez tout savoir, le toucher de Noriko n'est pas très agréable. Mais pour l'encourager, je fais un peu semblant que ça me plaît. Si déjà, ça pouvait lui faire passer l'envie de toujours m'attraper par la queue. Hiiii! S'est mise à hurler Noriko en retirant sa main. Vous parlez d'une surprise pour moi aussi? Me voilà en alerte. Qu'est-ce qui se passe? Sa gorge! Il y a un os qui vibre dans sa gorge! C'est bizarre! Oh la mufle! Alors ça, c'est la meilleure. Dire que je me forçais à ronronner. Mais c'est normal, il se sent bien, il l'exprime en ronronnant. En principe, oui, mais là, je peux te dire que c'est pas le cas. Je suis au contraire en train de ronronner de force. Je veux dire que j'y mets toute mon énergie et que je ne me sens pas bien du tout. Ah bon? J'ignorais totalement que les chats ronronnaient avec leur gorge. Noriko a fini par s'habituer et m'a caressé sous le menton avec un seul doigt. Tu croyais qu'ils ronronnaient comment, toi? Ma foi, avec la bouche? Ronronner avec la bouche? Non, mais quelle tarte! Pardon, il faut pas parler comme ça, c'est vrai, je m'excuse. Dès que Noriko a cessé de caresser, j'en ai profité pour arrêter de ronronner. À la place, je me suis installée dans un carton vide au coin de la pièce. C'est le carton que Satoru a laissé depuis le premier jour. Il est trop petit pour moi, mais justement, c'est ça qui est agréable. Satoru, ce carton, tu comptes le garder jusqu'à quand? Nana l'aime bien, laisse-le lui pour l'instant. Ça me donne l'impression que la maison est pas rangée. J'aime pas ça. Je lui ai acheté un vrai lit et un arbre à chat tout de même, là. Ah oui, mais les cartons, c'est pas la même chose. Ça se remplace pas. Ça lui en a pris du temps pour comprendre ce qu'un chat a dans la tête à Noriko. Par exemple, un jour, elle est arrivée avec une boîte en carton. Qu'est-ce que tu penses de celui-ci? C'était une tentative pour remplacer mon vieux carton maintenant bien lacéré de partout. Elle avait récupéré le carton d'un achat par correspondance. Il l'avait retaillé de façon à ce qu'il soit moins profond et renforcé de partout au ruban adhésif extra fort. Regarde, il est plus grand et tout neuf. Je l'ai doublé partout pour qu'il résiste plus longtemps à tes griffes. Alors, je peux jeter le vieux, qu'est-ce que t'en dis? Regarde-moi ça, à force de dormir dedans, il est tout gondolé. J'ai quelques doutes, a répondu Satoru en me regardant d'un air goguenard. Il te plaît, Nana? J'ai bâillé. Il me dit rien du tout, son carton. Décidément, Noriko a toujours pas compris. Une boîte spacieuse, ça n'a aucun intérêt. C'est se glisser dans de tout petits espaces qui fait l'attrait d'un carton. C'est pourtant pas compliqué. Et je suis rentrée dans mon vieux carton gondolé, réduisant à néant les efforts de Noriko. Elle avait l'air si déçue que Satoru l'a consolée en riant. Ce n'était peut-être pas la peine de le recouvrir. La prochaine fois, laisse-le juste comme il est, brûle comme ça. Je me suis donné du mal pourtant. Et oui, c'est ça le problème. À quoi ça sert de se donner du mal? Un chat, ça préfère trouver lui-même les choses qu'il aime, les choses qui sont faites exprès pour lui l'indiffaire. Le carton de Noriko est resté un bout de temps à prendre la poussière et les regrets à côté du vieux journal. Puis, un jour, il a disparu au recyclage. Là, tu dois te dire, bon, Frédéric, c'est bien, là, tu lis des extraits, tout ça, puis par contre, tu nous disais que on apprenait beaucoup sur la vie au Japon, puis pourtant, là, on apprend juste sur les opinions d'un chat. Ben oui, en effet, la plupart de mes extraits sont vraiment centrés sur Nana, et c'est plus entre ces extraits-là qu'on apprend au sujet de la culture au Japon, puis la vie là-bas. En fait, pour t'expliquer ça de façon plus simple, quand Satoru rencontre ses différents amis, ils ont toute une conversation où ce qui se rappelle les souvenirs. Et c'est narré par Nana qui vient nous faire une histoire de ce qu'il a appris de ces conversations-là. Donc, c'est vraiment au travers de ça qu'on en apprend plus sur le Japon. Et je comprends que ça paraît un peu moins dans les extraits que je t'ai lus jusqu'à maintenant. Pour terminer tous ces extraits-là, mon dernier extrait va peut-être te donner une petite idée. On parle un tout petit peu, on fait juste aborder à peine là, un aspect de la culture japonaise. Le jour du Nouvel An, j'ai eu du blanc de poulet, mais j'ai vérifié l'odeur plusieurs fois, puis je l'ai recouvert de sable. Pas de vrai sable, là, bien sûr, il n'y en avait pas. Je l'ai recouvert de sable invisible. Tu ne manges pas, Nana? A demandé Satoru. J'aimerais bien manger, je t'assure, mais ce blanc de poulet a une odeur très douteuse. Tante Noriko, le blanc de poulet de Nana n'est pas le même que d'habitude? Comme c'est le nouvel an aujourd'hui, j'ai fait des frais. Poulet fermier élevé au Japon, cuit à la vapeur. Et comment tu l'as cuit à la vapeur? Pour ôter l'odeur, j'ai ajouté du saké. Pas la peine de chercher plus loin, Noriko a encore fait des siennes. Ah oh, oui, désolée, mais Nana ne peut pas manger si ça sent l'alcool. Mais j'en ai mis juste un peu. Les chats ont un odorat très sensible. Ah bon? Je croyais que c'était les chiens qui avaient un bon flair. Plus de 6 000 fois la sensibilité de l'odorat humain à ce qu'on dit. Elle n'est pas méchante, Noriko. C'est juste qu'elle est un peu psychorigide sur certains sujets. Les chiens sont célèbres pour leur odorat, certes. Mais depuis quand ça veut dire que celui des chats est mauvais? C'est quoi la logique? D'ailleurs, pas besoin d'un nez 6 000 fois plus performant que celui des humains pour percevoir l'odeur d'alcool si tu mets du saké dans ta cuisine, me semble. Les chats sont beaucoup plus sensibles que les humains, tu sais. Satoru est allé à la cuisine et a fait cuire un morceau de blanc de poulet à la façon habituelle, qualité standard, garantie, avant de me l'apporter sur une nouvelle assiette. Et il a remporté le poulet trop assaisonné. Le poulet à la vapeur de saké, je vais le manger avec mon ozoni. Avant l'arrivée de Nana, je n'aurais jamais imaginé qu'un homme pouvait manger les restes de son chat, a fait Noriko en poussant un soupir. Ça arrive. D'ailleurs, ce ne sont pas ses restes. Il n'y a pas touché. Et Satoru a mis le poulet dans son bol d'ozoni, la soupe traditionnelle du Nouvel An. Ne va pas dire hors de la maison que je te donne à manger les choses dont même le chat ne veut pas. Surtout, ça me ferait honte. Si c'est quelqu'un qui a un chat, il comprendrait fort bien, remarque. Sur ce, Noriko et Satoru, après s'être souhaité mutuellement la bonne année, ont commencé à manger leur ozoni. Alors voilà, c'était ce que je voulais te partager par rapport au livre « Les mémoires d'un chat » de Hiro Arikawa. J'ai vraiment aimé ma lecture, puis je te suggère vraiment, si tu veux découvrir un chat witty qui a le sens de la répartie, c'est super intéressant comme livre, c'est vraiment doux, puis j'ai vraiment beaucoup aimé la lecture. Puis je dirais aussi que ça m'a peut-être transformé un peu le regard que j'ai par rapport à Grisou. Maintenant, ça fait 3 ans et quelques mois que Grisou et moi cohabitons. Puis je trouve ça toujours le fun d'arriver à le connaître ou à connaître sa personnalité d'une autre façon. Puis là, je me disais, est-ce que Nana et Grisou auraient des atomes crochus ou des caractéristiques qui se ressemblent. En fait, je pense que Grisou a quelque chose comme Nana par rapport à l'affection qu'il a avec son humain, si je peux dire. Mais je pense que Grisou a un caractère plus doux que Nana. Il faut dire aussi que Nana a été usée par la vie en étant chat errant, chat de gouttière, chat complètement libre aussi, on peut le dire, avant de rencontrer Satoru. Mais j'ai vraiment aimé avoir comme un glimpse dans l'imaginaire de Hiro Arikawa par rapport à qu'est-ce que les chats peuvent bien ressentir. Comment les chats découvriraient la mer, les chevaux, certaines choses, comment est-ce que les chats expérimenteraient tout ça. Puis aussi leur instinct par rapport à nous, par rapport au changement dans la vie. Donc j'ai vraiment aimé ce livre-là. Je te suggère, si tu veux, une belle lecture cet hiver ou même cet été, ça peut super bien se lire. Ça donne juste la bonne dose de voyage, de dialogue, de souvenirs. Puis ça fait vraiment du bien. Puis je me demande bien qu'est-ce que Grisou écrirait sur moi s'il écrirait un livre comme « Les mémoires d'un chat ». Donc je vais te laisser là-dessus. J'espère que tu as apprécié la capsule. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé, si tu as déjà lu ce livre-là. Tu peux faire un commentaire sur Spotify, Instagram ou Facebook à Découverte avec Frédéric. Tu peux aussi m'écrire un courriel si tu as besoin d'un peu plus d'espace qu'un commentaire à Découverte avec Frédéric à commercial@gmail.com. Puis, c'est ça, je te souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, dépendamment de quand est-ce que tu m'écoutes. Et on se revoit dans la prochaine capsule. Bye!